Bonjour Elisabeth Noir.
Bonjour Nicolas.
C'est un sujet d'actualité qui a beaucoup fait réagir ce matin sur notre antenne. On va parler avec votre invité des ingérences de l'Azerbaïdjan en Nouvelle-Calédonie.
Oui, puisque notre invité c'est Sébastien Van Dendyck, spécialiste en géopolitique, directeur de cabinet de la prison de la province sud. Bonjour.
Bonjour Elisabeth.
Merci d'accepter cette invitation pour essayer effectivement d'y voir un peu plus clair sur ce qui s'est passé ces derniers jours, puisque l'on a assisté la semaine dernière à Nouméa au congrès constitutif d'un front international de décolonisation. Alors, de quoi est-ce qu'il s'agit et quelle est la légitimité ou la crédibilité de ce groupe ?
Alors, ce front international de décolonisation s'inscrit dans la continuité des actions entreprises par Bakou, l'Azerbaïdjan, pour déstabiliser la France, notamment dans ses territoires ultramarins. Donc c'est un front qui aura vocation à faire pression sur l'État pour tenter d'atteindre la décolonisation, selon eux, de certains territoires. Donc pour la Nouvelle-Calédonie, ça veut dire aller à l'encontre du choix des Calédoniens démocratiquement fait de rester français. La légitimité de ce front, écoutez, pour moi, elle est nulle. C'est un outil d'influence d'un pays étranger. Donc je pense qu'on peut légitimement se questionner sur le sens du combat de ce front, qui en fait ne sert que les intérêts intéressés de l'Azerbaïdjan.
Parce qu'on a vu notamment, et je crois que ça a frappé un peu tout le monde, l'intervention d'un responsable azerbaïdjanais par visioconférence pour s'adresser aux Calédoniens et aux ultramarins qui étaient réunis à Nouméa.
Oui, c'est-à-dire que c'est très surprenant puisque l'ensemble des participants de ce front sont ensuite allés dire dans les médias qu'ils étaient indépendants, qu'il fallait pallier cette action à l'Azerbaïdjan. Et effectivement, en ouverture de ce congrès, on a M. Abbasov, qui est donc le responsable du groupe d'initiative de Bakou, qui a été formé l'année dernière, justement dans une période pour préparer, enfin l'année dernière, il y a deux ans, pardon, dans une période qui a notamment été juste avant les émeutes en Nouvelle-Calédonie. Donc effectivement, c'est l'Azerbaïdjan qui est derrière ça. Et ça me paraît moins compliqué, en fait, si vous voulez, de croire ces participants qui nous disent qu'en fait, c'est pas l'Azerbaïdjan qui est là.
Parce que le FLNKS ne le reconnaît pas pour l'instant. On a entendu Michael Forest dire que non, l'Azerbaïdjan était là par hasard presque et qu'il n'y avait pas de lien.
Le même Michael Forest qui nous disait le 30 août dernier que le groupe d'initiative de Bakou avait apporté un soutien logistique et de communication. Donc excusez-moi de le dire comme ça, mais ils font preuve d'une forme d'hypocrisie, ils mentent. Oui, effectivement, ils ont le soutien de l'Azerbaïdjan. Oui, ce front international de décolonisation est un outil de l'Azerbaïdjan. La preuve en est, le ministre des Affaires étrangères de l'Azerbaïdjan a communiqué sur Twitter lorsque un certain nombre de responsables politiques français ont dénoncé ces agissements.
Alors justement, il y a eu cette fois-ci un certain nombre de réactions. Alors, il y en a déjà eu par le passé. On sait que Sébastien Lecornu, le ministre des Armées, s'était inquiété de la présence de l'Azerbaïdjan, que Gérald Darmanin, quand il était ministre de l'Intérieur également. Et là, ces derniers jours, on a eu plusieurs réactions. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, le ministre des Outre-mer, Manuel Valls, ils ont tous les deux dénoncé l'ingérence de l'Azerbaïdjan, ses tentatives de déstabilisation. Est-ce que ça veut dire qu'il y a quand même une prise de conscience au niveau national de ce risque que fait courir ce pays ?
Je pense qu'il y a une prise de conscience et que là, elle est vraiment très forte parce que, au-delà d'ailleurs de ces responsables politiques, de ces ministres, on a aussi un certain nombre d'autres partis politiques, ou de responsables politiques. Je pense à l'ancien Premier ministre Gabriel Attal, je pense à François-Xavier Bellamy, qui est d'ailleurs très très souvent en soutien de la Nouvelle-Calédonie lorsqu'elle est victime des ingérences azerbaïdjanaises. Donc oui, il y a une prise de conscience maintenant. Cette prise de conscience, elle est utile, mais elle est grandement insuffisante pour nous aider. Il va falloir passer aux actes. Ça fait un certain temps que les élus calédoniens, et je pense particulièrement à Sonia Backès et à Nicolas Metzdorf, vont à Paris, dénoncent les ingérences azerbaïdjanaises. Aujourd'hui, il y a une prise de conscience. Elle est particulièrement tardive. Maintenant, il va falloir passer aux actes parce que ce qu'on voit, c'est qu'en fait, l'Azerbaïdjan répète. Et à un moment donné, il va falloir que ces choses-là s'arrêtent.
On va y revenir, mais d'abord, pour que les auditeurs comprennent bien, peut-être comment ça fonctionne, ce groupe d'initiative Bakou dont on parle beaucoup. Leur intervention, c'est essentiellement via les réseaux sociaux, par Internet. Quelle est leur manière de s'ingérer dans les affaires de la France et de la Calédonie ?
Alors, le groupe d'initiative de Bakou, il a été créé en juillet 2023. Il est monté en puissance dans les mois qui ont suivi. Et c'est un groupe de pression. C'est un groupe qui fait de l'influence, du lobbying au service des mouvements indépendantistes qui existent dans les territoires ultramarins. Ce groupe d'initiative de Bakou, c'est un outil pour l'Azerbaïdjan, qui lui sert à créer des formes de déstabilisation, voire d'insurrection, nous on l'a vu le 13 mai, sur le territoire français, pour gêner l'État, parce que la France prend des positions contre les politiques de l'Azerbaïdjan, notamment au Haut-Karabakh et en Arménie. Il faut savoir, et c'est important de le noter, que l'Azerbaïdjan mène une épuration ethnique, massacre des chrétiens par centaines, oblige des dizaines de milliers de chrétiens à partir de chez eux au Karabakh. Et donc la France a à de nombreuses reprises critiqué cette politique étrangère, enfin cette politique intérieure azerbaïdjanaise, et du coup l'Azerbaïdjan en répercussion a organisé un certain nombre d'actions. Comment ça fonctionne? L'Azerbaïdjan finance très probablement, il y a un soutien qui est logistique, c'est pas nous qui le disons, ce sont les indépendantistes, il y a un soutien de communication, tu le disais Elisabeth, sur les réseaux sociaux, le groupe d'initiative de Bakou est très très actif, notamment sur Twitter, et puis il y a un soutien aussi au niveau des médias internationaux. Azertak, qui est l'agence de presse azerbaïdjanaise, offre un relais au niveau international, grâce à ses journalistes, aux actions du groupe d'initiative de Bakou et des indépendantistes ultramarins.
Vous faisiez allusion aux émeutes de mai dernier. On a la certitude, on a fait le lien sur l'implication de l'Azerbaïdjan, sur la manière dont ils ont pu inciter, pousser, commanditer, voire ces émeutes.
Alors bon, il y a un lien qui est assez évident, et je me permets de le répéter encore parce que c'est important. Michael Forest nous a dit effectivement que le groupe d'initiative de Bakou a porté son soutien à la cause indépendantiste, et quand on sait quel est le positionnement de Michael Forest dans l'échiquier politique indépendantiste, on sait évidemment que ce soutien vient aux indépendantistes les plus radicaux. Par ailleurs, Viginum, qui est l'autorité de l'État qui vérifie, qui veille sur les ingérences étrangères sur le territoire national, a publié d'abord une note en mai 2024 et surtout un rapport au début du mois de décembre 2024, le 2 ou 3 décembre je crois, qui est très renseigné et qui explique comment l'Azerbaïdjan, à travers le groupe d'initiative de Bakou, a créé des opérations pour accroître, si vous voulez, la déstabilisation sur le territoire calédonien, notamment en partageant un grand nombre de fake news, de fausses informations, qui ont permis, à un moment donné, de servir les intérêts de ceux qui ont mis le feu à la Nouvelle-Calédonie.
Alors la France est la cible, on a bien compris, à travers elle, des actions dans ces territoires ultramarins. Mis à part la Nouvelle-Calédonie, il y a aussi le groupe d'initiative Bakou s'intéresse notamment beaucoup à Mayotte et à d'autres territoires d'outre-mer. Hein.
Oui, et c'est d'ailleurs une des formes d'alerte que, avec Sonia Backès, on avait porté à l'attention des ministres responsables. On leur avait dit ce qui est arrivé chez nous va arriver ailleurs. Sonia avait eu raison de le dire, puisqu'on a vu que c'est arrivé notamment aux Antilles quand il y a eu les manifestations en Martinique, si je ne me trompe pas, et un peu plus récemment à Mayotte, où effectivement le groupe d'initiative de Bakou vient en soutien du gouvernement des Comores. Il n'est pas le seul, hein, derrière le groupe d'initiative de Bakou et cette déstabilisation à Mayotte, il y a notamment les Russes. Donc effectivement, la Nouvelle-Calédonie n'est pas la seule visée, mais effectivement, on a été le laboratoire, et malheureusement, j'ai envie de dire, le laboratoire réussi des ingérences azerbaïdjanaises.
Alors maintenant, comment est-ce qu'on peut s'opposer à ce genre d'ingérence et de déstabilisation? Est-ce qu'il y a des rétorsions, des menaces, des actions diplomatiques, des actions économiques? Vous y faisiez allusion tout à l'heure, le député Nicolas Mezdorf a annoncé ce matin une proposition de résolution européenne visant à condamner les ingérences de l'Azerbaïdjan. Qu'est-ce qu'on peut faire?
Alors il y a un grand nombre de choses à faire. D'abord, c'est important, il faut s'en féliciter. Maintenant, tout le monde a bien conscience de ce qui se passe. L'activisme de Sonia Backès, de Nicolas Mezdorf à l'Assemblée et d'ailleurs ailleurs, a permis de faire prendre conscience aux gens des enjeux qu'il y avait. Derrière ça, après les paroles, il va falloir des actes. Je sais que Sonia Backès et Nicolas Mezdorf rencontrent le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères dans les jours à venir. Il va falloir lui demander un certain nombre d'actes. Et je pense que dans ces actes, il y a effectivement, à un moment donné, le rappel de l'ambassadrice de France qui est aujourd'hui en Azerbaïdjan. Je pense qu'il y a par ailleurs un certain nombre de mesures de rétorsion. On sait aujourd'hui que l'Agence française pour le développement envoie de l'argent en Azerbaïdjan. Je ne suis pas bien certain que les impôts des Français doivent servir un pays qui organise la déstabilisation de son, sur le territoire national. Et puis, effectivement, il y a d'autres mesures à prendre. Je sais ici qu'on a une ambassadrice qui est très active, Madame Roger Lacan. Je sais que Jean-Baptiste Jean-Jean Villemer au Vanuatu est aussi très actif sur les réseaux sociaux pour dénoncer la désinformation. Et puis, peut-être qu'il y a aussi d'autres entreprises à initier. Je pense peut-être potentiellement à des alliances diplomatiques avec les gens qui ne sont pas dépendants des hydrocarbures azerbaïdjanais, parce que la réalité derrière, c'est que l'Azerbaïdjan tient beaucoup de pays grâce à ses ressources. Et puis peut-être aussi des actions un peu plus disruptives, mais qui ont leur place plus à Brienne qu'au Quai d'Orsay. Quoi.
Pourquoi est-ce qu'on avait vu la constitution de ce congrès à Nouméa ? Tout le monde a eu l'air un peu surpris juste avant le congrès du FLNKS. Est-ce que les services de renseignement, est-ce que l'État avait prévu ce qui allait se passer, savait qu'il y aurait cette réunion à Nouméa ? Alors c'est notamment le Rassemblement national aujourd'hui hein, qui s'en inquiète avec un communiqué d'André Rouget, député au Parlement européen, qui dit « Les services de renseignement n'avaient-ils rien vu ? L'État n'était-il pas en mesure d'empêcher cette manifestation ?» Qu'est-ce que vous en pensez ?
Je pense qu'on constate depuis un peu plus d'un an que... il y a une forme de progression à faire sur le renseignement en Nouvelle-Calédonie, que ce soit le renseignement sur ce qui s'est passé avec les émeutes. Le renseignement, semble-t-il, n'a pas vu les choses. Je crois que nos élus loyalistes ont un grand nombre de fois regretté que ce renseignement n'ait pas été assez efficace. Et puis, effectivement, on remarque que les améliorations qu'on aurait pu porter ne sont peut-être pas encore efficaces aujourd'hui parce que, encore une fois, un congrès comme ça, je crois que si on a des renseignements efficaces et je crois que si on est vraiment offensif et qu'on tente de faire respecter la souveraineté nationale sur notre territoire, on fait en sorte qu'il ne s'organise pas parce que, encore une fois, c'est une organisation qui aujourd'hui, effectivement, se fait par des Français, mais qui soutiennent des causes indépendantistes, ça c'est leur histoire, ils ont tout à fait le droit, mais pour autant, ils sont des outils d'un pays étranger qui cherche à déstabiliser la France et qui cherche à mettre les Calédoniens dans une situation encore plus terrible que la situation dans laquelle ils sont. Et donc, effectivement, il y a un grand, grand, grand effort à faire en matière de renseignement, puisqu'on constate, malheureusement, ces derniers temps, qu'à chaque fois qu'il y a des choses que l'on aurait dû anticiper, elles ne le sont pas ou elles ne sont pas correctement. Alors après, il faut être aussi... le travail du renseignement, c'est parfois de ne pas tout nous dire, et encore heureux, ils font leur travail. On a en France... la preuve quand même que le renseignement fonctionne bien, je pense notamment au renseignement terreau, puisque ces dernières années, on a moins eu de problèmes d'attentats. Maintenant, il y a peut-être un effort à faire sur tout ce qui est dit guerre informationnelle. On voit aujourd'hui qu'on est en retard, et sur la prévention de ce type d'événements qui sont inacceptables aujourd'hui sur notre territoire.
Et localement, les Calédoniens, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? On doit supporter ces ingérences, mais... on n'a aucun moyen d'action dessus ?
Je pense qu'on a un moyen d'action tout simplement en prenant conscience de ce qui se passe. On est tous de tradition chrétienne ici, je crois, qu'on soit indépendantiste ou pas. Je demande vraiment aux Calédoniens, qu'ils soient indépendantistes ou pas d'ailleurs, de se poser la question de savoir si c'est normal. Normal de prendre l'argent d'un pays qui massacre les chrétiens. On a aujourd'hui des responsables corses qui se sont exprimés sur les réseaux sociaux. Donc on ne peut pas dire des Corses qu'ils ne soient pas indépendantistes. Il y a un grand mouvement indépendantiste en Corse et ces Corses-là aujourd'hui dénoncent le fait que les indépendantistes fassent flotter le drapeau corse aux côtés du drapeau azerbaïdjanais parce que l'Azerbaïdjan, ce n'est pas, comme j'ai pu le lire, une démocratie autoritaire comme l'a écrit Charlotte Mansley. Non, c'est une dictature islamique sanguinaire qui massacre des chrétiens. Et donc je pense qu'à un moment donné, la prise de conscience, elle peut être aussi de la part de tout le monde. Je sais notamment qu'un certain nombre de personnes chez les indépendantistes, et je pense notamment à M. Jaiwe qui s'était exprimé sur les antennes de NC Première, condamnaient ce type d'alliance. Je pense que la prise de conscience, elle peut être collective. Est-ce qu'aujourd'hui, les Calédoniens, et particulièrement chez les indépendantistes, veulent avoir pour alliés des gens qui massacrent les chrétiens, qui les obligent à quitter leur maison, qui brûlent leur église, commettent des atrocités sur les femmes, sur les enfants. Voilà. Ayez juste en tête que aujourd'hui, l'allié principal, le financeur principal, l'appui logistique principal de l'Union calédonienne et de la CCAT, c'est une dictature islamique sanguinaire qui massacre des chrétiens. Je pense qu'une fois qu'ils auront pris conscience de ça, et j'espère qu'ils seront capables de prendre conscience de ça, il y aura peut-être une évolution dans les prises de position.
Merci à Van Den Dijk. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci Elisabeth.